Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mercredi prochain, le pape François s'envole pour Maputo, la capitale du Mozambique. Début d'un voyage de 6 jours, du 4 au 10 septembre, dans l'océan Indien. Vendredi prochain, il arrivera à Madagascar pour 48 heures et de là, il fera un aller-retour le lundi à l'île Maurice. Nous avons rencontré cet été à Paris le père Pedro. Ce prêtre spiritain, arrivé à Madagascar il y a près de 50 ans, a fondé Akamasu, le village de l'amitié qui a donné un toit à près d'un demi-million de personnes. Ils sont actuellement 25 000 à vivre dans ce grand village, construit aux portes de la capitale et que le pape François viendra visiter. À la question que représente cette venue de François dans la grande île, le père Pedro répond sans hésiter.
Mais un grand encouragement parce que on vient de sortir d'une période politique très difficile où il y avait crise politique une après l'autre. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement, un nouveau président. Et aujourd'hui, le peuple veut croire que la pauvreté peut être vaincue, éradiquée. Le pape vient aussi pour dire qu'il va nous donner un encouragement pour être plus vrai, plus authentique, parce que dans un pays où le mensonge prenait beaucoup de place, la corruption de même, et les apparences aussi, eh bien la vérité c'est effritée un peu, c'est effrité. Les évêques malgaches, ils ont souvent dénoncé cela, le mensonge partout, les mensonges, quand on construit sur le mensonge, rien n'est dur, tout s'écroule. Et eh bien la société malgache n'a pas pu décoller, n'a pas pu, pourtant elle est pleine de jeunes, pleine d'enfants, pleine de possibilités, pleine d'énergie, de dynamisme, beaucoup d'intelligence, un peuple intelligent, le peuple malgache, les jeunes malgaches, mais créatifs même, mais sans issue, on est comme dans un tunnel. Alors voilà, le pape va nous amener un grand courage, un souffle de vent nouveau, un nouveau oxygène.
Qu'est-ce que vous attendez de ces paroles précisément? Est-ce que vous attendez qu'il puisse énumérer les mots de Madagascar ou au contraire, voilà, encourager?
Ben, je laisse le pape le dire comme il sait le faire, parce que le pape François ne connaît pas la langue du bois, hein, et je le remercie de tout cœur. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la langue du bois, c'est le pape. Mais le pape non plus, il ne vient pas non plus blesser les gens, il vient encourager les gens et dire la vérité, parce que il représente Jésus, et Jésus vient libérer, et le pape vient libérer nos frères qui ont la foi, mais tous les gens de bonne volonté, parce que lui, il n'est attaché à rien, il est attaché à la dignité de la personne humaine, il est attaché à la vérité, il est attaché à tout ce qui fait du bien à l'humanité.
Alors, le pape à Akamasu, c'est, Jean-Paul II était venu, mais le pape à Akamasu, quand on pense à ce qu'était Akamasu il y a 20 ans, c'est très impressionnant, c'est une reconnaissance de la part du pape de tout le travail qui a été mené, et quel travail!
Mais vraiment, c'est une grande reconnaissance du pape François envers le travail, envers les pauvres, pas seulement pour Akamasu, mais à travers Akamasu, de tous les missionnaires et les religieuses qui travaillent au fond de la brousse, qui ne sont pas connus et qui font un travail exemplaire, extraordinaire, qui tient leur peuple debout pour qu'ils ne désespèrent pas. Combien de missionnaires, combien de prêtres malgaches, des évêques malgaches, des religieuses malgaches, de frères protestants de toutes les églises, FZKM, FLM, Anglican et toutes les autres églises, qui font un travail vraiment très important dans les domaines sociaux aussi, et bien qu'on ne connaît pas et que à travers nous, le pape aussi le dit, continuez, continuez. Alors, le pape vient visiter le peuple malgache. Et quand il a choisi aussi, pendant une heure, venir visiter Akamasu, c'est pour encourager tous ceux qui font du travail social, qui font un travail d'engagement concret envers les plus pauvres, ceux qui t'ont les oubliés, les laissés pour compte de la société. Et ce pape qui vient vraiment à réveiller les consciences et nous dire, debout, ne perdez pas espoir, mettez-vous dans le chemin, donnez-vous la main, ne croyez pas que ces fatalités de la pauvreté est impossible, c'est possible de vaincre la pauvreté. Il le dit partout, et bien quand il va venir à Akamasu, nous allons le recevoir les bras ouverts et avec une grande, grande joie, les enfants et la jeunesse malgache.
C'est ce que vous êtes dit il y a 30 ans, la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est ce que vous dites. Est-ce que c'est ce que vous dites également au président que vous connaissez, que vous avez rencontré, avec qui vous avez voyagé en avion au début de l'été c'est ce que vous lui dites?
Oui.
Il vous entend?
Oui, je pense que oui, il respecte beaucoup. Le nouveau président de Madagascar, Andry Rajoelina, c'est une personne qui respecte la personne qui est en face. Ça, et je n'ai jamais entendu dire des mauvaises choses de ses présidents prédécesseurs. Et je pense qu'il écoute, et il sait que c'est la dernière chance pour Madagascar. Lui, la dernière chance. Et lui, il m'a dit aussi, il m'a dit quand j'ai dit, mon président, si vous nous décevez, on ne sait plus à qui croire. Et il m'a dit, mon père, j'ai fait un serment avec mon peuple. J'ai fait un serment, et je vais l'accomplir. Nous le souhaitons, et à grande vitesse, comme il dit, à grande vitesse, parce que de face à un tel embouteillage de pauvreté, on ne peut pas perdre du temps. Et j'encourage ce jeune président à se mouiller, à s'engager, à donner sa vie pour leur peuple, parce que ce peuple malgache ne mérite pas cette pauvreté dans laquelle il est. Je pense qu'une ère nouvelle a commencé pour Madagascar, qu'un nouvel espoir est né avec ces nouveaux présidents et son gouvernement, et que tous ensemble, et que cette visite du pape va certainement nous aider à travailler davantage ensemble, à lutter contre la corruption, contre le népotisme, contre le mensonge, contre les apparences, contre le vol, contre tant de mauvaises choses. Le pape va nous aider à nous unir et aller plus vite dans cette lutte contre la pauvreté.
Vous, de votre côté, vous demandez aussi aux hommes politiques trois choses: l'honnêteté, le patriotisme et l'humanisme.
Mais bien sûr, un élu qui a demandé à son peuple d'être élu, et il ne peut pas ensuite se friter et être invisible. Il est là, il devrait être au milieu de son peuple. Au milieu, le peuple l'a lu pour qu'il l'aide, pour qu'il soit leur représentant, pour qu'il soit leur frère. Et alors, il ne peut pas s'est absenté du combat. Il doit être le premier patriote, il doit être le premier à donner l'exemple pour les biens communs, pour les biens publics. Il doit être authentique, il doit être vrai, et il doit être humain, humain. Alors voilà, et les gens, quand ils voient que leur élu, leur député, leur ministre, leur président sont des patriotes, sont authentiques, sont humanistes, les gens font confiance, ils les suivent.
Est-ce que vous estimez que le modèle d'Akamassou est un modèle, un exemple pour les autorités malgaches? Montrer que ça peut marcher. Pourquoi ça a marché? Quelles ont été les recettes d'Akamassou? Quelles sont les recettes d'Akamassou?
Mais c'est justement la vérité. La vérité et l'engagement total au milieu des pauvres. Je vis au milieu des pauvres. Et nous ne sommes pas un modèle. Si les autres nous prennent comme modèle, d'accord. Mais nous, on ne se vante pas de ce qu'on a fait. Parce qu'il y a tant à faire encore. Il y a tant de pauvreté à vaincre encore. Mais si les autres voient dans ce que nous avons fait quelque chose de bien, comme dit à Madagascar un proverbe, « Chou fianach », ce qui est bon, on peut le prendre pour d'autres lieux. Mais je pense qu'on doit se donner la main. Et ensemble, aller plus vite pour lutter contre cette misère. Parce que nous sommes presque dans un tunnel. Et il faut sortir de ce tunnel le plus vite possible. Avec toute cette jeunesse et ces enfants qui nous poussent derrière. Qui poussent derrière.
Il y aura une insurrection sociale un jour si les changements ne vont pas assez vite?
Ah, certainement. Si les gens seront déçus, s'il n'y aura pas des changements, s'il n'y aura pas une baisse de la pauvreté, et s'il n'y aura pas de travail pour les jeunes, s'il n'y aura pas plus de justice sociale, eh bien, je crains une explosion sociale. Parce que Madagascar, c'est un peuple qui suit aussi les nouvelles d'ailleurs. Ils savent ce qui se passe au Soudan, ils savent ce qui se passe en Algérie, ils savent ce qui se passe dans tous les pays du monde. En France, ils deviennent des citoyens responsables. Des citoyens responsables qui savent que leur pauvreté n'est pas tombée du ciel, qui était créée par les propres dirigeants de leur pays.
Le père Pedro Opeka, fondateur de l'association Akamassou. dernière rediffusion d'été, nous allons entendre l'universitaire et écrivaine tunisienne Ella Wardi, venue à Paris en février dernier pour la conférence internationale qui s'était tenue à l'UNESCO, intitulée « L'islam au XXIe siècle », destinée à donner une tribune à l'islam moderne, et aussi pour présenter son livre « La déchirure », premier tome d'une trilogie « Les califes maudits » publié chez Albin Michel. Ce livre sur les premières heures et les premiers jours qui ont suivi la mort du prophète s'inscrit dans la suite des derniers jours de Mahomet sur la mort du prophète, sorti il y a 2 ans. Ella Wardi, bonjour.
Bonjour Geneviève, merci de me recevoir dans votre émission.
Et merci d'être avec nous dans ce studio, car je crois qu'à Paris actuellement vous êtes assez occupée entre le livre et le colloque.
Oui, et c'est ça l'inconvénient de ne pas vivre à Paris, c'est quand je suis de passage, j'essaie de rassembler le maximum de rendez-vous, ce qui me fait des journées assez épuisantes, mais c'est toujours un moment euphorique, parce que c'est un moment de naissance, la naissance d'un livre, la naissance aussi d'un beau projet porté par mes amis Mohamed Haddad et Michel de Rosen. On a fêté la naissance de la première manifestation organisée par l'association L'Islam au XXIe siècle. Et quand ils m'ont demandé de faire le discours d'ouverture, j'ai accepté avec plaisir, tout en éprouvant évidemment un immense honneur à me prêter à l'exercice.
Mais effectivement, parler d'un islam en marche, hein, d'un islam du XXIe siècle, ça change un peu d'autres colloques, parfois trop pessimistes, ou qui enferme un peu les choses.
Oui, c'est vrai, parce que nous, on veut, évidemment, puisque le 21e siècle commence à peine, et on aimerait avoir une perspective, un horizon prometteur, plutôt que des réflexions fatalistes, pessimistes, où on dit voilà, les dés sont jetés, il n'y a plus rien à faire, on doit constamment gérer l'islam comme une sorte de bombe à retardement, malheureusement elle explose de temps en temps, et le débat serein qui s'est établi pendant ces 2 journées de colloque a donné beaucoup d'espoir aussi bien aux participants qu'au public nombreux qui étaient présents. Il y a eu bien sûr plusieurs thématiques qui étaient abordées à travers les panels. On n'a pas choisi forcément des sujets politiquement corrects. On a parlé frontalement du sujet de la violence en islam, de la question de la liberté de conscience qui a été vraiment depuis le début de l'islam, une sorte de casus belli qui a justifié des massacres et des guerres. Parce qu'on a une vision de l'islam qu'on veut imposer, et tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les traite tout de suite d'apostats, par exemple, et donc on les condamne à mort facilement. Et il y a aussi la question très sensible, et j'imagine vous-même, Geneviève, vous êtes très intéressée par la question, c'est l'islam dans les médias. Comment on parle de l'islam dans les médias? Il est souvent un sujet d'actualité, et non pas un sujet de réflexion, et c'est bien dommage. Monsieur Iberveda Drine a bien souligné dans son discours l'idée que là, on est lu très rapidement quand il y a un attentat, ce n'est pas l'islam, on passe à autre chose, et alors quand cela ne nous permet pas de débattre. Ces gens-là qui font des actes absolument ignobles ne sont pas des extraterrestres, ils se réclament de l'islam. Jusqu'à quel point leur revendication est justifiée dans les textes de l'islam, qu'il faut absolument étudier, analyser sereinement, parce que c'est vrai, heureusement d'ailleurs, l'islam ce n'est pas Daesh, mais Daesh c'est l'islam. Donc il faut à un moment donné dire les choses franchement, assumer cet aspect-là.
Et dire qu'est-ce qu'on fait.
Et voilà, le régler. Et je pense que cette conférence a l'ambition, tout à fait d'ailleurs honorable, et d'ailleurs l'objectif a été atteint, de commencer, après le diagnostic, commencer à réfléchir à la thérapie. Comment on va faire? Et le discours d'ouverture que j'ai eu l'honneur de prononcer a essayé de faire une proposition par rapport à ma démarche personnelle. Je crois que c'est, en fait, il n'y a pas un plan que tout le monde doit exécuter, sinon ça devient un dogme. Mais le règlement de ce problème se fera à travers cette mosaïque d'initiatives personnelles. Chacun dans son domaine peut faire quelque chose.
Absolument.
Moi, j'ai choisi l'angle de l'étude de l'histoire. C'est vrai, Michel a raison, l'islam, souffre d'une méconnaissance. Et pour moi, la plus dangereuse des méconnaissances, c'est celle de l'histoire de l'islam. Et j'ai essayé, à ma petite échelle, de creuser cette histoire et de la présenter dans des livres accessibles à un grand public.
Alors, et l'avoir dit, d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté. Je n'ai pas dit, effectivement, que vous étiez professeur de littérature et de civilisation française à l'Université de Tunis, que vous êtes chercheur, effectivement, associé du laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS. Bien, on est plongé véritablement dans cette ambiance à Médine, de la mort du prophète et des jours qui vont suivre, des jours chauds et sur le plan de la température
climatique
et politique. Voilà, exactement. Bon, les califes maudits, donc c'est l'histoire effectivement du début du califat, la déchirure. C'est un très beau titre hein, pour exprimer et faire comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Je propose aux éditeurs d'écouter les premières lignes de la déchirure qui expriment très bien ce climat.
Le poète Abou Douaïb se réveille en sursaut au milieu de la nuit. Un cauchemar vient de l'arracher à un sommeil bien agité. Le front en sueur, le cœur palpitant, il s'assoit dans son lit. De cet épouvantable rêve, ne lui reste que le souvenir de son sinistre dénouement et d'une voix lugubre, muse du malheur, murmurant ses vers. Une horrible calamité s'est abattue sur l'islam, entre les palmiers et les donjons. Le prophète Mahomet est mort et nos yeux versent sur lui des torrents de larmes.
Alors, nous sommes en 632, au mois de juin.
Oui, 8 juin.
8 juin. Le prophète est mort. Il était malade depuis un certain temps. Il venait de perdre son fils. C'était une période très douloureuse pour lui, en dehors de cette maladie qu'il travaillait.
La maladie l'a achevé, en fait.
L'a achevé.
Mais lui, les problèmes ont commencé d'abord sur le plan politique, avec un affrontement contre l'Empire byzantin qui a débouché sur des échecs militaires cuisants. C'est un peu Bérézina et Waterloo, hein, si on peut faire le parallèle avec Napoléon. À cela est venu s'ajouter, comme dans une série de catastrophes, c'est la loi des séries, un problème, un deuil personnel, puisqu'il a perdu son fils, comme vous l'avez rappelé, et ensuite, avec l'enterrement de ce fils, tant espéré, hein, qui est mort à l'âge de 2 ans, le prophète a le pressentiment que c'est à sa propre mort que le Dieu est en train de le préparer. On est au mois de janvier 632. À ce moment-là, le prophète décide de faire le pèlerinage de l'adieu. Il sait que ce sera son dernier pèlerinage, puisqu'il prononce un discours qui sera appelé par la tradition le discours de l'adieu. Il dit que la mission prophétique maintenant est achevé, et en rentrant du pèlerinage, comme s'il y avait en fait une succession d'événements savamment ficelés, il tombe malade et il mourra de cette maladie. Et les tensions politiques, les convoitises, les ambitions, c'est ce que j'ai essayé de reconstituer dans le livre Les derniers jours de Mohammed, on les sent déjà avant même la mort du prophète. Donc il y avait quelque chose, une tension qui était encore contenue, mais qui va exploser littéralement pendant une réunion qui s'est tenue pendant l'enterrement du prophète. La date de l'enterrement est objet d'interrogation, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a été enterré. On sait que c'était un enterrement tardif. Un jour après, 2 jours après sa mort, on ne pourra jamais trancher. Mais en tout cas, ce qui semble certain, c'est que l'affaire de la succession du prophète s'est faite pendant son enterrement, pendant que la famille était occupée par la toilette mortuaire.
Est-ce que l'on peut considérer qu'on est en face d'un roman historique? C'est-à-dire que, manifestement, les sources, vous les avez travaillées hein, de façon très précise, très méticuleuse. D'ailleurs, à la fin, dans les notes, on le voit très bien. En même temps, bon, on est dans une histoire, on est complètement transporté. On est vraiment à Médine, là. Alors, il y a la part de l'histoire et puis il y a la part, bien sûr, de l'imagination. Vous entrez dans la psychologie de chaque personnage et l'avoir dit.
En fait, ce n'est pas un roman historique pour 2 raisons. Je sais pas, parce que le roman historique est un genre...
C'est pas un sous-genre, oui.
Absolument pas. C'est même l'un des principaux genres. D'ailleurs, ma référence à l'œuvre extraordinaire de Maurice Druand à travers le titre est une manière de rendre hommage à ce genre littéraire qui a contribué à la création en Europe de ce qu'on appelle la conscience historique. Mais si je n'ai pas eu recours à la veine romanesque, c'est parce que je n'en ai pas eu besoin. Puisque la tradition, alors là, regorge de détails. La réunion, le conclave, ce que j'appelle le conclave, qui a réuni les compagnons.
Oui, j'aime beaucoup l'expression, oui.
Il y a des références, parce que comme j'écris en français, il y a un public occidental.
Bien, oui.
J'ai préféré utiliser des termes qui soient proches de l'imaginaire de ce lecteur que cible de mon livre. Donc je disais que la tradition regorge de tellement de détails physiques, psychologiques, les dialogues eux-mêmes sont reproduits avec une tension dramatique. Donc je n'ai pas eu besoin d'inventer. C'est vrai, comme dans un tableau, dans un vieux tableau qu'on veut restaurer, il y a parfois quelques petits blancs. Mais mon travail, tout simple, vraiment, je n'ai aucun mérite, honnêtement, parce que je n'ai fait que lire. Et comme vous l'avez rappelé à juste titre, les notes montrent que c'est plutôt un livre de lecture. Et aussi parce que les sujets sont tellement sensibles que j'ai besoin à chaque fois de présenter mes références pour ne pas donner l'impression au lecteur que je suis dans la fantaisie et que je traite un sujet aussi délicat avec légèreté.
On va replanter le décor. Et la Wardi de Médine à la mort du prophète. Il y a donc ceux qui sont venus de la Mecque avec lui, que l'on appelle les
émigrants.
Les émigrants. Et puis, là, ce sont des émigrants, tout à fait, c'est de l'aristocratie, en quelque sorte, hein. Ça va l'être après. Et puis, il y a ceux qui sont à Médine, ceux qui accueillent, justement, les émigrants, que l'on appelle, donc, les Ansars.
Voilà. Auxiliaires.
Les auxiliaires.
Voilà.
Voilà. Eux, c'est, s'il y a d'un côté ceux qui seront les princes, on va dire, et eux, ce seront les ministres, hein, plus tard. Pour décrire ça comme ça, très rapidement.
Oui, schématiquement, c'est un peu ça.
Très schématiquement.
Mais on va laisser quand même le lecteur découvrir.
On va laisser le lecteur découvrir. Donc, le prophète vient de mourir. Il y a dans la chambre mortuaire Ali, c'est-à-dire son gendre.
Et cousin.
Et pendant ce temps-là, dans une maison, on va dire ça, oui, une maison, on peut dire ça comme ça, une maison.
Oui, une tonnelle, parce une que tonnelle. C'est dans une sorte de verger. Oui, une
Alors,
tonnelle.
C'est la Sakifa.
C'est la Sakifa.
Oui. Des Banu Saïda. Alors, c'est là où va se décider qui succédera au prophète.
Absolument, c'est un véritable huis clos au sens sartrien du terme, hein, puisque les Ansar natifs, comme vous l'avez rappelé à juste titre, natifs de Médine, vont se réunir d'abord tout seuls, parce qu'ils considèrent qu'avec la mort du prophète, ils acceptaient son autorité parce que c'est un prophète, parce qu'aussi ils le considéraient un peu comme l'un des leurs, ils disent, voilà, maintenant on va retrouver une forme de souveraineté. Et donc, on va prendre notre destinée en main et désigner un chef de Médine qui soit de notre camp. Là, catastrophe pour les émigrants. Ils apprennent que les Ansars sont réunis et ils sont sur le point de désigner un chef. Les émigrants paniquent pour deux raisons. D'abord, pour la première raison que vous avez rappelée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils constituent, les émigrants, une sorte d'aristocratie de l'islam. Ce n'est pas une aristocratie au sens sociologique du terme, mais une aristocratie religieuse qui est en fait liée à leur ancienneté dans la religion. C'était les premiers qui avaient suivi Mohammed.
Les compagnons.
Voilà, les compagnons qui se sont convertis à l'islam à la Mecque quand Mohammed était persécuté, menacé, et eux, ils ont pris des risques avec lui. Donc du coup, ils sont persuadés qu'ils ont une supériorité sur les Ansar, qui certes ont du mérite, puisque c'est eux qui les ont accueillis, qui ont hébergé le prophète, qui ont donné même des moyens matériels à cette communauté de réfugiés pour imposer l'islam à une bonne partie de l'Arabie. Donc les émigrants, par ambition, par conscience de leur importance, ne peuvent pas laisser les Ansar décider tout seuls de la destinée de toute la communauté. Donc ils vont s'imposer à cette réunion. Ils vont argumenter dans un premier temps, parce que les choses après ne se passent pas très bien. L'argumentation portait sur deux points, l'ancienneté, leur ancienneté, donc ils ont plus de mérite, et aussi la supériorité de la tribu à laquelle ils appartiennent et qui est la tribu du prophète Quraysh. Mais derrière tout cela, et c'est ce que j'essaye de mettre en avant, parce qu'il y a d'un côté ce qu'on met en avant comme argument, mais il y a aussi ce qui est implicite dans le discours, c'est que pour les émigrants, la question du pouvoir à Médine n'est pas seulement une question de priorité, de préséance. C'est pour eux une question de vie ou de mort. Parce que si, avec la mort du prophète, ils vont retrouver leur statut de réfugiés et ils vont être sans doute chassés de Médine. Et c'est ce que je rappelle d'ailleurs en faisant quelques petits flashbacks, en faisant le compte-rendu de cette réunion, c'est que du vivant même du prophète, les émigrants et les Ansar n'avaient pas du tout une cohabitation idyllique. Il y avait une très grande rivalité. Mais en la présence du prophète, il était là à toujours essayer d'équilibrer les rapports de force.
Il y avait notamment la question aussi des butins de guerre.
Absolument, et moi c'est l'un des plus grands points de discorde déjà du vivant du prophète entre ces deux camps, Ansar et migrants, c'est que la part du butin devait être partagée de manière équitable. Le prophète parfois favorisait les émigrants, parce que comme ils sont des réfugiés, etc., donc ils étaient dans une situation de précarité. Mais les Ansar, au bout d'un moment, ne supportaient plus cette situation parce que, quand même, ils se disent, c'est nos armées, c'est nos hommes qui se battent. Donc, il n'y a pas de raison que les émigrants obtiennent des parts plus importantes dans le butin. Et moi, j'ai établi, en fait, un parallèle entre les disputes autour des butins de guerre et les disputes autour du pouvoir de Mohammed. Et je dis, en fait, que le pouvoir de Mohammed était un butin que chaque camp veut s'approprier en exclusivité.
À l'époque, lorsque l'on désignait un chef dans cette société tribale, il y avait ce qu'on appelle les majlis, c'est ça ?
Oui, ou al-mala, les appelle aussi.
Qui, là, c'est complètement différent. On a le sentiment que là, effectivement, cette organisation sociale est bousculée.
Ah oui, parce qu'il y a un état central qui est en train de naître, hein, qui sort des sables du désert. Pour eux, c'est un monstre. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, en Arabie, les choses restent quand même
tribales.
C'est l'Arabie Saoudite porte le nom d'une famille. C'est le seul pays qui porte le nom d'une famille. Donc il y a certes une tradition de concertation. Hein, ils connaissent pas les Arabes du 7e siècle, les habitants de la péninsule arabique. Hein, je veux pas parler des Arabes au sens contemporain du terme. Ne connaissent pas le pouvoir tenu par un seul homme.
C'est la négociation. Il y a plusieurs.
Le consensus. C'est des décisions collégiales. Et là, il voyait pointer à l'horizon une nouvelle institution qui va s'appeler plus tard le califat, une sorte de monarchie de droit divin, ou de papauté, c'est tout cela à la fois.
Le pouvoir est sacré, puisque vous
pétez le pouvoir, parce qu'il émane de la proximité du prophète. Le calife, comme son nom l'indique, c'est celui qui est lieutenant, ce qui tient lieu de prophète, c'est-à-dire qui va avoir, non pas le pouvoir prophétique en héritage, puisque le prophète n'a pas d'héritier, c'est le dernier des prophètes, il n'y en a pas d'autres, mais il va être comme l'exécuteur testamentaire. Donc il connaît les volontés du prophète et il va faire en sorte que ses volontés soient appliquées à la lettre. Et pour les Arabes de l'époque, c'était réellement un météorite qui tombe du ciel. Ce n'était pas acceptable, indépendamment des questions de légitimité. Qui a le droit, émigrant ou ansar, qui a le droit d'être à la place du prophète, c'était déjà tout l'ordre politique tribal qui était bousculé. Pour preuve, le premier empire musulman, Omeyyade, et le deuxième empire musulman, Abbasside, ne se sont pas établis en Arabie. Mouawiya, le fondateur de la dynastie Omeyyade, qui est de la Mecque, il est de la famille du prophète lui aussi. Il est allé à Damas, là où il y a une tradition d'État central, héritée de Byzance. Même chose pour les Abbassides. Ils descendent de Abbès, également, oncle du prophète. Ils sont allés à Bagdad, parce qu'ils savent que l'établissement d'un État central est quasiment impossible, parce que c'est contraire aux mœurs du tribalisme arabe, dans lequel chaque tribu, et parfois chaque clan dans une tribu, est très très jaloux de son indépendance et de son autonomie.
Revenons, Ella Wardi, à ces jours, à ces heures qui ont suivi donc ce 8 juin 632. Vous rappelez bien que Ali est dans la chambre mortuaire, donc tout va se passer en dehors de lui. Ça explique évidemment toute la suite dans l'islam. Tout se passe hors de lui et c'est donc Abou Bakr qui va être choisi. Qui est Abou Bakr? C'est le proche, le fidèle des fidèles?
Ah oui, oui, c'est sans doute le premier adulte, disons, la premier musulman est une femme, c'est Khadija, c'est la femme du prophète, mais Abou Bakr est sans doute le premier à se convertir à l'islam. C'est un peu avec le prophète, il faisait un peu Montaigne et Labo ici, hein, ils étaient très proches. Abou Bakr est une personnalité extrêmement sereine, calme, très pieux. Il faisait d'ailleurs l'unanimité. Hein, d'ailleurs, quand je parle de la réunion, les Ansar s'adressaient à lui avec beaucoup de respect.
Et il ne veut pas le pouvoir, curieusement.
Ah, ça c'est... Oh, c'est une. Moi-même, j'étais
là,
un peu
ahurie. On comprend rien à ce moment-là. Quand il dit « mais je ne veux pas le pouvoir ».
C'est un truc vraiment qui m'a moi-même bouleversée. Et cet Abou Bakr a renforcé sa position dans le cercle proche du prophète en donnant en mariage au prophète sa fille, la fameuse Aïcha, ce qui a rapproché encore plus les deux hommes, puisque Aïcha est toujours présentée comme la favorite du prophète. Alors, Abou Bakr est un personnage extrêmement complexe, malgré ses apparences d'homme pieux, serein, mais il est plein de contradictions. Et la première des contradictions que j'ai moi-même observée, c'est que quand je lis les différents récits de la tradition autour de son élection, j'ai découvert ahuri que dès les premières semaines de son élection, il a voulu démissionner. Parce qu'il a tout de suite réalisé, puisqu'il avait eu quand même tout de suite affaire à une opposition très farouche, notamment celle de la famille du prophète. Et il ne se sentait pas capable d'assumer un tel fardeau. C'est lui, d'ailleurs, qui parle du califat comme un fardeau. Et ce qui a renforcé encore plus ce sentiment, comment vous dire, de désespoir par rapport à ce poste qu'il occupe, le premier. En fait, c'est lui qui a ouvert la marche. Hein, et on l'a lancé comme ça, on l'a jeté à l'eau et on lui a dit « essaye de nager ». Et ce qui a renforcé son désespoir, c'est le conflit qu'il va avoir avec la fille du prophète. Et là, ça va prendre des proportions vraiment tragiques.
Le choix, je ne vais pas dire l'élection, mais enfin le choix d'Abou Bakr, c'est le début de ce que vous appelez la rupture. Donc je rappelle, Ella Wardi, le titre de votre livre, Les Califes maudits, la déchirure, c'est-à-dire ce monde musulman, ce début, cette amorce du monde musulman qui, dès le départ, effectivement, est né dans le conflit. Hein. Je vous propose une lecture à nous. D'une page de votre livre, Ella Wardi.
Tout ce que Mohammed avait œuvré sa vie durant pour instaurer une fraternité entre ses co-religionnaires s'effondre comme un château de cartes quelques heures à peine après son décès. Il l'avait pressenti. Quelques jours avant de mourir, alors qu'il visitait le cimetière des musulmans, il s'était adressé aux morts. « Je vous salue, gens des tombes, vous qui êtes à l'abri des épreuves qui atteignent les hommes, les discordes se profilent à l'horizon. » Elles apparaissent comme des lambeaux d'une nuit noire, elles se succèdent, la fin de l'une est suivie par le début de l'autre, et la dernière est pire que la première.
Alors, une page de votre livre, lue par Ludivine Amado, Ella Wardi, et moi je continuerai, parce que c'est quand même, là effectivement, vous plantez bien, je dirais, le décor et puis les enjeux. Et on comprend mieux ce qui va suivre. La rupture qui se manifeste dans le spectacle désolant de la Sakifa aurait pu dégénérer très vite en guerre civile. N'eût été l'arrivée d'une nouvelle main de fer, celle gantée de velours du premier calife Abou Bakr, qui bientôt exportera la violence interne en la transformant en combat énergique contre les mécréants, entre guillemets, et autres postats. Mais le spectre de la déchirure n'a jamais été conjuré. Il reste là tapis à l'état larvaire. Il grandira d'une manière souterraine et éclatera quelques années plus tard dans une guerre qui divisera irréversiblement les musulmans. Tout est dit là. Hein ?
Oh, j'espère.
Presque.
Donc c'était à la limite pas la peine d'écrire un livre. J'aurais dû me contenter de ce paragraphe.
Non, on a beaucoup de plaisir à lire et d'intérêt.
Merci beaucoup,
livre.
Geneviève. C'est très aimable. Effectivement, je pense que vous savez maintenant le monde musulman, hélas jusqu'à aujourd'hui, est déchiré. Hein, je reprends volontiers ce terme par les conflits fratricides,
notamment entre les sunnites et les chiites.
Voilà, qui est le conflit entre sunnites et chiites. Vous savez. parlait très bien, Geneviève, qu'il ne concerne pas seulement maintenant que les musulmans, puisque c'est quasiment un facteur structurant dans toute la géopolitique mondiale.
Et au sein du sunnisme,
Évidemment, oui. Et même au sein du chiisme aussi, oui. Il y a différents groupes. Mais en tout cas, le chiisme le plus structurant, c'est celui de sunnites chiites. Et les graines ont été déjà semées pendant les premières heures qui ont suivi la mort du prophète, dans le conflit qui va opposer très tôt le calife Abou Bakr et la famille du prophète, incarnée par la fille du prophète Fatima.
Le prophète n'avait pas laissé de testament, pourquoi ? Ou est-ce qu'on ne lui a pas laissé le temps de laisser un testament ?
On pose la question comme ça. Grande question. Et là, je pense que les auditeurs qui auraient lu mon livre « Les derniers jours de Mohammed » devraient se souvenir d'un chapitre que je consacre à la question du testament non écrit. Et c'est un testament, effectivement, Geneviève, que le prophète a été empêché d'écrire. Parce que sans doute, les volontés qu'il souhaitait exprimer n'arrangeaient pas les affaires de tout le monde. Alors, est-ce qu'il a fini par l'écrire et on l'a fait disparaître? Est-ce que finalement, on lui a défendu si énergiquement, lui qui était malade et faible, il n'a pas eu la force de l'imposer? Ça va être, comme la malédiction de Fatima, un mystère de l'histoire. Mais en tout cas, c'est une sorte de scène primitive, comme celle de la Sakhifa, du conclave, le testament absent. Le document qui a disparu ou qui n'a jamais existé, ce sont des scènes primitives, des archétypes qui expliquent pourquoi, dès le départ, l'islam a été dans une zone de conflit.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Ella Wardi pour son livre « Les Califes maudits, la déchirure » publié chez Albin Michel. Un petit repère quand même chronologique, une présentation pour comprendre ce qui s'est passé après l'élection, le choix d'Abou Bakr. Donc Abou Bakr va mourir 2 ans après, en 634, c'est bien ça. Après il y a Oumar, brutal.
Oui, brutal, conquérant.
Conquérant.
Je m'abstiens, Geneviève, de juger les personnes, enfin les personnages historiques, parce que ce que quelqu'un appellerait brutalité, un autre appellerait fermeté.
C'est ça. Et c'est les lunettes aussi, peut-être contemporaines. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, selon
absolument.
Vous.
Il ne faut pas projeter sur le passé les grilles d'évaluation du présent. Donc, ce n'est pas du tout un procès que je fais à ces personnages de l'histoire. Ils sont ce qu'ils sont. Ils vivaient dans une situation, dans une société très violente. Mmh. Hein. Il n'y avait pas de convention de Genève, ni de... Nations Unies. Donc, franchement, les problèmes politiques étaient réglés par la manière dure.
Mais pourquoi justement vouloir convertir par l'épée ?
Ah, parce que le prophète a dit le paradis se trouve à l'ombre des épées. Et parce que ceux qui n'entrent pas en islam sont une menace réelle ou potentielle contre l'islam. En fait, cette guerre sainte perpétuelle, est, malgré son côté conquérant, c'était d'abord des guerres de défense. C'est comme des fuites en avant, en fait. Parce que dès très tôt, avec le règne d'Abu Bakr, les guerres qu'il a déclarées dès les premières semaines de son élection contre ceux qui ont rejeté son autorité étaient en fait des guerres pour préserver la communauté musulmane. Il y avait des menaces contre cette communauté, fragilisée par la mort de leur chef charismatique. Ils se voyaient condamnés à l'errance, partir dans tous les sens, et surtout qu'il y a eu un contentieux historique avec les autres tribus contre lesquelles ils se sont battus. Même la Mecque, leur cité d'origine, allait leur fermer la porte au nez.
Oui, ils étaient menacés.
Donc c'est vraiment de la survie. Et j'essaye, déjà, dans ce livre-là, et sans doute je l'expliquerai plus clairement, avec force détail, dans le prochain volume des Califes maudits, L'ombre des sabres, précisément, où je montre que l'apparente raison qui a conduit Abou Bakr à mener les guerres d'apostasie, ce qu'on appelait les guerres d'apostasie, mais c'est un anachronisme absolu, mais bon, dans la tradition, elle est consacrée comme telle, hein, cette guerre totale contre l'Arabie. Ben, cette guerre-là était une guerre avant tout d'autodéfense. Ils n'avaient pas d'autre choix que faire la guerre, déjà. Quand vous avez lu l'extrait tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait des conflits internes qu'il fallait exporter vers l'extérieur.
Oui, ça c'est un grand classique, ça, oui.
Mais c'est des lieux communs de l'histoire. Les musulmans ont une histoire, à la limite, extrêmement traditionnelle. Parce que c'est à la fois les tragédies grecques jusqu'à Game of Thrones. C'est-à-dire, c'est des schémas, en fait. C'est des schémas archétypaux qui se répètent. Donc je disais que les guerres d'apostasie avaient en apparence des airs de conquête, mais en fait c'était des guerres d'autodéfense. Ensuite, la victoire a donné de l'ambition aux musulmans qui vont conquérir le monde.
Abou Bakr sera le seul des quatre premiers califes qui mourra de sa belle mort, de mort naturelle.
Pas sûr.
Et même pas sûr. Bon.
Ah, ça c'est justement bon, dans le prochain tome.
Ah, bon, parce que là c'est pas dit dans celui-là.
Non, parce qu'en fait c'était juste une sorte d'épilogue de ce volume pour clore la partie sur Fatima et pour rappeler que le Abou Bakr avait eu jusqu'à sa mort sur la conscience la manière avec laquelle il a traité la fille du prophète. Mais en fait, le règne d'Abou Bakr fera l'objet du prochain tome des Califes maudits.
Oui, alors quelques mots sur Fatima, avec un Abou Bakr qui est rongé par les tourments et les remords.
Qui est effondré.
Qui est effondré. Il n'a pas voulu donner à Fatima, la fille du prophète, l'héritage qui lui revenait. Et là, bon, il va mourir dans les tourments de la culpabilité.
De la culpabilité, surtout qu'elle, elle ne va pas mâcher ses mots. Hein. Elle va lui faire un scandale à la mosquée pour lui dire qu'elle était meurtrie par l'injustice qu'elle a subi, et elle aussi, elle accable même les compagnons de son père, parce qu'ils étaient comme les complices silencieux de cette injustice, elle les accable, et elle prononce, comme Jacques de Molay dans Les Rois maudits de Maurice Druand, quand il était du haut de son bûcher, il lance une malédiction à la face de Philippe le Bel, et elle a fait la même chose, et Abou Bakr le premier va recevoir la malédiction en plein visage, puisque quelques jours après, il perd son fils aîné, Abdallah, et il va sentir que la malédiction est en train de se concrétiser, et il fait une démarche, aller se réconcilier avec Fatima. Il essaie de la voir, elle refuse de lui adresser la parole.
Fatima, donc, épouse d'Ali, que ce soit Oumar, Othman et Ali, les trois vont mourir assassinés.
Mais sauvagement assassinés, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'ils sont pas morts sur un champ de bataille. Hein. C'est Othman surtout qui a eu la mort la plus atroce, puisqu'il a été lynché, comme Kadhafi. Hein. Il a été, c'est une révolte absolument extraordinaire. On entre chez lui et on le frappe jusqu'à la mort. Ali et Omar sont assassinés à la mosquée par un poignard dans le dos alors qu'ils sont sur le tapis de prière.
Une une parenthèse, donc ce différend, le mot est faible, avec Abou Bakr, entre Fatima et Abou Bakr, portait donc sur l'héritage. Hein. Est-ce que c'est là où la question de l'héritage va être fixée dans l'islam, ou est-ce que c'est effectivement... Non,
pas du tout, pas du tout. Au contraire.
L'héritage pour les femmes, dites-nous.
Au contraire, non. Oui. Justement, l'un des reproches majeurs que Fatima fait à Abou Bakr, c'est qu'il n'a pas respecté la loi coranique.
Oui, c'est ça. Alors,
qui lui garantissait un minimum.
Ça veut dire que la situation des femmes à l'époque était meilleure qu'aujourd'hui pour l'héritage?
Oui, oui, c'est d'ailleurs très drôle que ce livre-là coïncide avec la question de l'égalité successorale
en Tunisie.
En Tunisie. Et en fait, l'argument d'Abou Bakr, quand il a décidé de déshériter Fatima et de nationaliser, entre guillemets, les biens du prophète, de les remettre dans le trésor public, c'était que les prophètes, il lui a dit, ton père disait, les prophètes ne laissent pas d'héritage.
C'est pour les pauvres, c'est ça, non? C'est pour
voilà, tout ce qu'il laisse, c'est aumône. Ça veut dire que c'est un bien public. On peut
nationaliser.
Nationaliser, c'est exactement ça. Le terme n'est pas bien sûr à sa place. C'est l'équivalent à l'époque contemporaine. Et elle va discuter avec lui dans un premier temps. Mais quand elle voit qu'il maintient sa position, elle va lui sortir le verset du Coran précisément. Le verset du Coran en question, quand on regarde même les exégèses du Coran, il a été révélé précisément pour donner à la femme un minimum d'héritage. Parce que quand on regarde, je n'entre pas trop dans les détails, mais les exégètes du Coran, très souvent avant d'interpréter le verset, il y a une partie qui est consacrée au contexte de révélation. Et il se trouve que ce verset coranique, qui accorde à la femme la moitié de ce que reçoit un homme, en fait c'est suite à une plainte. Une femme, une veuve, est venue pleurer chez le prophète en lui disant « Regarde, mon mari est mort en martyr, dans une bataille, j'ai deux filles, et leur oncle paternel est venu tout prendre. Je me retrouve sans rien. » C'est dans un esprit plutôt d'équité.
Et de protection.
De protection des femmes que ce verset a été révélé. Et donc là, on voit très vite que le texte coranique, au lieu d'être prolongé par les hadiths du prophète, il entre en contradiction avec lui.
Dernière question, Ella Wardi, on approche de la fin de cette émission. Donc, le livre, on peut dire, est essentiellement, je dirais, centré sur la personnalité, sur Abou Bakr. Vous comptez donc écrire un troisième tome, consacré alors, à qui? À Omar, à Othman, à Ali?
Alors, le prochain tome, justement, Geneviève, va parler du règne d'Abou Bakr. Parce que dans ce récit, la déchirure, c'est uniquement les toutes premières semaines du règne d'Abou Bakr, qui rappellent les remords au moment de l'agonie. Mais après, on va faire un flashback pour parler de ces deux années décisives où le premier califat de l'islam a été mis en place. Donc, le prochain tome, qui s'intitule « À l'ombre des sabres », parlera du règne d'Abou Bakr. Le suivant, c'est Omar. Le suivant encore, Othman. Et enfin, Ali. Donc, le dernier des califes maudits.
Donc ça veut dire que dans le prochain, vous allez aussi beaucoup parler du Coran, parce que c'est là où ça se passe aussi, non?
Oui, il y a...
Commence quand même.
Ça commence,
ça
absolument.
Commence, hein
ça commence.
C'est l'élaboration du Coran, oui.
Mais c'est le règne de Othman qui va réellement marquer la fixation du texte coranique tel qu'on le connaît aujourd'hui.
On va déjà lire La déchirure, Les Califes maudits, donc chez Albin Michel. Merci Ella Wardi.
Merci
d'être
Geneviève.
Venue
merci.
Dans notre studio. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin des Religions du Monde. Geneviève Delrue, Yann Bourdelas vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.